Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhor Secretário-Geral do Conselho da Europa, Senhor Presidente do Conselho Executivo do Centro Norte-Sul, Senhor Presidente da Delegação Parlamentar Portuguesa à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, distintos laureados, Simone Weil e Kofi Annan, Srs. Ministros, Srs. Magistrados, Secretários de Estado, Srs. Embaixadores, Sras. E Srs. Deputados, é para a Assembleia da República uma grande honra poder anualmente ser o local de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. Desde 1996, que assim acontece, por iniciativa e acordo de um dos meus antecessores, o Dr. António Almeida Santos, quando Presidente da Assembleia. Este prémio é da responsabilidade do Conselho da Europa, do Centro Norte-Sul, uma importante estrutura do Conselho da Europa desde 1990, sediada em Portugal. Por isso, o atual Presidente da República, na altura Primeiro-Ministro, dedica um especial carinho a esta instituição e nos deu a honra de estar presente nesta cerimónia. Os laureados de hoje falam por si, mas a Assembleia, como local de atribuição do prémio, apenas exprime que os acolhe com gosto, porque vários são os oradores que fundamentarão o mérito da atribuição deste prémio. Agradeço a vossa presença, felicito os laureados e desde já passo a palavra ao Presidente do Conselho Executivo do Centro Norte-Sul.
Conseil de l'Europe, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Monsieur le Haut Commissaire des Nations Unies pour l'Alliance des Civilisations, Madame la Lauréate, Monsieur le Lauréat, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les Invités, en tout premier lieu, au nom du Conseil exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, nous voulons exprimer notre gratitude à Monsieur le Président de l'Assemblée de la République du Portugal, Monsieur Jaime Gama, qui nous offre une nouvelle fois l'hospitalité dans cette salle prestigieuse pour la remise du prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe. Monsieur le Président de la République, Monsieur Cavaco Silva, a accepté de rehausser par sa présence notre cérémonie. C'est un acte fort qui rappelle, Monsieur le Président, votre indéfectible attachement à la protection des droits de l'homme partout et pour tous. Votre présence manifeste aussi la longue fidélité et l'estime que vous portez au Conseil de l'Europe en général et au Centre Nord-Sud en particulier. Nous n'oublions pas, Monsieur le Président, que le Centre Nord-Sud a ouvert ses portes à Lisbonne en 1990 grâce à votre actif soutien, vous étiez alors Premier ministre. Mesdames et Messieurs, le prix Nord-Sud est attribué chaque année à deux candidats qui se sont illustrés par leur engagement dans la promotion des droits de l'homme, dans la défense de la démocratie pluraliste, ainsi que dans la coopération Nord-Sud et dans la solidarité mondiale. Mesdames et Messieurs, le respect de ces valeurs est aujourd'hui plus que jamais fondamental si nous voulons que notre planète soit autre chose qu'un champ clos des rivalités économiques et de conflits. Madame Simone Veil, vous êtes tout à la fois l'incarnation et un symbole de ce credo. À la sortie d'Auschwitz-Birkenau, vous avez connu, je cite, « les regards fuyants qui nous rendent transparents ». Et comme vous l'écrivez dans ce livre témoignage extraordinaire qu'est une vie, je cite, « sans doute, à cause de ce que j'avais subi en déportation, j'ai toujours développé une sensibilité extrême à tout ce qui, dans les rapports humains, génère humiliation et abaissement de l'autre. Madame, c'est à cette vertu que nous voulons aujourd'hui tout particulièrement rendre hommage. En effet, tout le monde connaît votre parcours. Madame, en tant que ministre d'État du gouvernement français, en tant que présidente du Parlement européen, la première présidente du premier Parlement élu au suffrage universel, et en tant que membre du Conseil constitutionnel. Votre combat largement médiatisé sur l'adoption de la loi sur l'interruption volontaire de la grossesse en 1974 est resté dans toutes les mémoires en France et à l'étranger. Mais au-delà et au-dessus de toutes ces charges et de tous ces combats, il y a ce que Bernard-Henri Lévy relevait en présentant votre candidature. Je cite, « c'est peu de dire que toute sa vie et toute sa pensée ont contribué à la défense et à l'illustration des droits de l'homme à travers le monde. Le nom de Madame Simone Veil est synonyme, véritablement synonyme des droits de l'homme. De surcroît, son attachement à sauver la mémoire des victimes des crimes de l'hitlérisme en fait l'une des combattantes les plus efficaces contre cette maladie contemporaine qui s'appelle la concurrence des victimes. Madame, en vous décernant le prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe, nous avons voulu honorer une femme qui, durant toute sa vie, a démontré par l'exemple que le respect des droits de l'homme est une exigence de principe. Vous avez vécu Kafka et vous avez traversé la barbarie. Vous avez refusé la fatalité du destin. Vous avez su trouver toujours, au fond de vous-même, la force de vivre et de rester debout. Votre vie est devenue symbole de courage. Vous avez fondé, vous en êtes la présidente d'honneur, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, pour que l'on n'oublie jamais l'indicible, l'innommable, l'insupportable. Monsieur Kofi Annan, être secrétaire général des Nations Unies, c'est se situer au point de rencontre de toutes les difficultés, de toutes les turbulences, de tous les conflits du monde, et il faut trancher le nœud gordien. Permettez-moi d'évoquer un fait qui touche mon pays, la Suisse, et qui démontre que non seulement les hommes d'État, les responsables politiques ont reconnu votre action, mais aussi que la population elle-même l'a appréciée à sa juste valeur. La Suisse, on le sait, vote surtout et tout le temps. L'adhésion à l'organisation politique, l'Assemblée générale, les Nations unies, avait été refusée à 75% avant la chute du mur de Berlin. Le monde était bipolaire. Après 1989, la question a été reposée au peuple suisse. Vous vous êtes engagé et vous vous êtes engagé personnellement en Suisse dans la campagne qui a précédé la votation. Vous avez expliqué que le monde avait changé. Et vous avez convaincu. Mais je vous dis aujourd'hui ma conviction que ce vote clair en faveur de l'adhésion à l'Assemblée générale des Nations unies a été obtenu parce que par votre action, vous avez montré l'utilité de l'organisation politique et donc la nécessité pour la Suisse d'y adhérer pleinement. Un homme peut, mieux que beaucoup d'autres, apprécier la valeur de votre engagement. Je cite le président de la Commission européenne, M. le président José Manuel Barroso, qui a proposé votre candidature et qui nous a demandé de lire un message. Alors, Monsieur le secrétaire général, vraiment, le monde continue de changer. Parce que pour la première fois, un Suisse sera le porte-parole officiel de Monsieur le Président de la Commission européenne. C'est donc avec fidélité et respect que j'ai l'honneur de donner le message de Monsieur le Président Barroso. Monsieur Barroso écrit, je suis sincèrement désolé de ne pas pouvoir assister à la cérémonie de remise du prix du Centre Nord-Sud dans une ville que vous imaginez chère à mon cœur. Mais je tenais à féliciter chaleureusement Kofi Annan et Simone Veil pour avoir obtenu cette distinction. Je salue en Simone Veil, une grande européenne et la première présidente du premier Parlement européen élu au suffrage universel. J'ai proposé, dit M. Barroso, le nom de Kofi Annan pour l'attribution du prix Nord-Sud et je voudrais en quelques mots vous en expliquer les raisons. D'abord et avant tout, je considère Kofi Annan comme un exemple pour tous les responsables politiques du monde. Je suis heureux qu'il soit distingué parce que sa carrière traduit parfaitement les objectifs du prix Nord-Sud. Né au Ghana, il a été amené à diriger la plus grande institution internationale à New York et travaillant sans relâche dans des domaines fondamentaux pour la paix et la stabilité du monde. On ne peut pas imaginer meilleur exemple d'interaction fructueuse entre ce qu'il est convenu d'appeler le Nord et le Sud. Ensuite, je crois qu'il faut redire les efforts que Kofi Annan a déployés pour amener la paix et la stabilité dans des régions troublées, du Moyen-Orient au Soudan, en passant par l'ex-Yougoslavie et le Timor, la communauté internationale a reconnu l'immense mérite de ses efforts qui ont à juste titre été récompensés par un prix Nobel. Enfin, Kofi Annan s'est aussi attaqué à des questions essentielles, la défense des droits de l'homme, la lutte contre l'épidémie du VIH-Sida, la promotion d'un ordre multilatéral équitable et fondé sur des règles, le développement durable et une mondialisation plus juste. Toutes ces questions, toutes ces valeurs que Kofi Annan a portées et défendues avec talent et conviction font aujourd'hui partie intégrante des feuilles de route que la communauté internationale s'est donnée pour le 21e siècle. Les objectifs du millénaire pour le développement dont Kofi Annan a pris l'initiative n'en sont qu'un exemple. Comme vous le savez, j'encourage l'Union européenne à se montrer très active dans ces domaines. Je voudrais conclure par un message directement adressé à Kofi Annan. Votre exemple restera pour moi, et j'en suis certain, pour des millions de citoyens du monde, une source d'inspiration incomparable. Ce prix est largement mérité. Madame Simone Veil, Monsieur Kofi Annan, le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe vous décerne ce prix en hommage et en signe de notre adhésion de principe, de raison et de cœur à votre action, qui nous appelle à une responsabilité partagée, qui nous rappelle que l'humanité est comptable de l'humanité. Je vous remercie.
Tem agora a palavra o Presidente da Delegação da Assembleia da República, à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.
Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sr. Secretário-Geral do Conselho da Europa, Sr. Presidente do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, ilustres homenageados Sra. Simone Veil e Sr. Kofi Annan, altas entidades presentes, minhas senhoras e meus senhores. A delegação da Assembleia da República na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, acompanha sempre com o maior interesse as iniciativas do Centro Norte-Sul, vocacionado para promover a aproximação e o diálogo tão necessários entre as duas metades do mundo. O Centro Norte-Sul resulta, aliás, de uma iniciativa bem-sucedida de Portugal. O prémio anualmente atribuído a duas personalidades de cada um dos lados do planeta exprime bem o compromisso institucional do Centro. Destaca-se como exemplar o empenho dos galardoados na promoção dos direitos humanos, que é o ponto focal para onde devem convergir os esforços coletivos de desenvolvimento e de paz. Na edição deste ano, os homenageados são figuras de primeiro plano, mundialmente reconhecidos nos respectivos campos de atividade, e concitam a presença nesta cerimónia dos mais altos responsáveis do Estado português, o Sr. Presidente da República e o Sr. Presidente da Assembleia da República, a quem saúdo respeitosamente, bem como do Conselho da Europa, o Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar e o Sr. Secretário-Geral, a quem dirijo amistosas saudações. É-me especialmente grato evocar o percurso intelectual e político de Madame Simone Veil, a primeira Presidente do Parlamento Europeu eleito por sufrágio universal, a quem cumprimento com muito apreço. Cumprimento também cordialmente, em nome dos parlamentares portugueses, o anterior Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, Mr. Kofi Annan. Uma e outro são justificadamente famosos e por isso dispensam a apresentação e tornam supérfluos quaisquer elogios. Simone Veil e Kofi Annan ilustram com os seus nomes o prémio que hoje recebem. E os parlamentares portugueses do Conselho da Europa só podem regozijar-se pelo reforço de visibilidade que assim alcança o Centro Norte-Sul, felicitando o respectivo Presidente, M. Frey, nosso antigo colega na Assembleia de Estrasburgo. Os direitos humanos constituem um ideal que tende a mobilizar o mundo inteiro. Na elaboração e difusão da doutrina dos direitos humanos, o Conselho da Europa ocupa um lugar de destaque. Nascido do grande sobressalto emocional e cívico causado pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, o Conselho da Europa aspira a difundir por toda a parte as conquistas nesse âmbito alcançadas no nosso continente. Madame Simone Veil e Mr. Kofi Annan são militantes credenciados dos direitos humanos e não carecem de estímulos para manter bem alto tal propósito. Os parlamentares portugueses do Conselho da Europa orgulham-se de estar nas mesmas fileiras, ao lado de tão augustas personalidades, a quem felicitam pelo justo galardão que os recebem na velha sala do Senado do Parlamento de Portugal. Muito obrigado.
Tem a palavra de seguida o Secretário-Geral do Conselho da Europa. Excellency, ladies and gentlemen, the Council of Europe website explains that the North-South Prize of the Council of Europe has been awarded every year since 1995 by the North-South Centre of the Council of Europe to two candidates who have demonstrated strong and visible commitment, outstanding achievement, and clear hope for the future about the protection of human rights. The list of recipients of the prize in previous years is indeed very prestigious. As usual, this year's laureates come from the Northern and Southern Hemisphere, respectively. However, I must admit that I have always had a slight problem with the notion that a candidate for the prize is associated with only one of the hemispheres. The fact is that the 26 exceptional personalities who have received or are about to receive the North-South Prize have all been guided by ideas and principles which are universal, and that applies regardless of whether they were or continue to be active at a local, national, continental, or global level. In other words, their compass is ethical, not geographical, and it results from their values, not the magnetic field of the Earth. But it is also true that the world is riddled with economic, social, and political divides. As long as they exist, these divides will represent a liability for the welfare of the world as a whole, and not only for its less fortunate half. Social and economic divides give birth to resentment and intolerance, and these can be exploited by bigots and extremists of all geographical origins and ideological provenance. People like Simone Veil and Kofi Annan have worked all their lives against such divisions and against all forms of extremism, racism, and intolerance. They have worked all their lives for more justice and more humanity in world affairs. They have worked all their lives for a world in which North and South will be a matter of geography, not a matter of fate. That is why they are here today, and that is why we are immensely grateful to both of them. We are indeed paying tribute to two exceptional personalities. Simone Veil was deported during the Second World War, and she survived the horror of the camps. She was a main political personality behind the liberalization of abortion in France, and she was the first president of the directly elected European Parliament. Mrs. Veil also founded and chaired the Foundation for the Memory of the Shoah. Kofi Annan is a former Secretary General of the United Nations and a winner of the Nobel Prize. He initiated the reform of the United Nations system with the twin objectives of more transparency and more democracy, and he launched the Millennium Goals. As we have seen in recent weeks, he continues to be a man of peace, mediating in complicated and devastating conflicts. The award which Simone Veil and Kofi Annan will receive today is a recognition of their contribution to dialogue between people from different countries and different parts of the world, a dialogue based on respect for human rights and a commitment to democracy, good governance, and the rule of law. This is also the central objective of not only the North-South Centre of the Council of Europe, based here in Lisbon, but also the Council of Europe as a whole. One of our key priorities is the promotion of intercultural dialogue, which is indispensable if we want to counter the threats and exploit the potential of our societies in the 21st century. Intercultural dialogue is important because it brings peoples and cultures closer together and reduces the risks of misunderstanding, tension, and conflict. For the Council of Europe, the ultimate objective is to create conditions which allow people from different cultures and with different ethnic, religious, or other backgrounds not only to live alongside each other, but to live with each other. Intolerance is bad, but tolerance is not good enough. We must build societies in which people not only tolerate, but respect each other. In this endeavor, we have always had strong support from the Portuguese government. Nearly two decades ago, their contribution was vital in the creation of the North-South Centre. For those who still do not know, the Prime Minister at the time was His Excellency Mr. Cavaco Silva, now President of the Republic of Portugal. And in 2005,
under the Portuguese chairmanship of the Committee of Ministers, the Council of Europe adopted the Faro Convention on the Council of Europe Strategy for Developing Intercultural Dialogue. I also take this opportunity to pay tribute to the Portuguese Parliament for its continuous support for the North-South Prize ceremony and for the other events associated and organized by the North-South Centre. But my final words are again for our two laureates. They are persons of great moral authority. And moral authority, as Mahatma Gandhi said, is never retained by any attempt to hold on to it. It comes without seeking, and it is retained without effort. That is why people like Simone Veil and Kofi Annan are so important and why they are so valuable. Thank you.
Já agora a palavra o Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.
Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République, Monsieur le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Président du Conseil exécutif du Centre Nord-Sud, Madame Bail, Monsieur Annan, Mesdames, Messieurs. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer la remise d'un prix qui a un nom peu ordinaire, le prix Nord-Sud. Le Nord-Sud, tout comme l'Est-Ouest, est malheureusement une distinction créée par l'homme. Dans un monde naturel et juste, tel celui dont nous rêvons, le Nord et le Sud ne devraient être que des notions de géographie. Et la seule ligne de partage entre les deux ne devrait être que celle de l'équateur, non pas celle de la richesse et de la pauvreté, ou celle de l'indifférence ou du désespoir. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, au nom de laquelle j'ai l'honneur d'intervenir aujourd'hui, a réussi justement à estomper cette division entre Est et Ouest, en rassemblant tous les pays sous son toit, sur un pied d'égalité, tous les pays de l'Europe, avec la seule exception, comme vous le savez, de la Biélorussie. En tant que représentant direct de peuples qui nous ont élus, nous nous sommes vite rendus compte que ce qui nous unit, nos valeurs communes de démocratie, droits de l'homme et prééminence du droit, va largement au-delà des clivages politiques et particularités nationales, culturelles, religieuses et ethniques. Qu'en est-il de la division Nord-Sud? Heureusement, le monde prend de plus en plus conscience qu'il est comme n'importe quel autre globe dans l'univers. Le monde, il ne peut exister si ses deux moitiés sont en parfait équilibre. Malheureusement, cette prise de conscience croît surtout à cause des problèmes globaux dont nous souffrons de plus en plus ensemble. Le réchauffement climatique, le terrorisme, les conflits armés, la précarité qui engendre des flux massifs de migrants et de réfugiés, les déséquilibres démographiques, les pandémies comme la sida, etc., etc. Nous n'avons pas une réponse toute faite à tous ces défis, mais nous avons quelques clés pour ouvrir des portes. La première, ce sont ces mots que sont l'essence même du centre Nord-Sud, interdépendance et solidarité. Dans un monde global, on ne peut plus ignorer ce qui se passe en disant que c'est l'affaire des autres. Et on ne peut pas imposer des solutions sans dialogue, concertation et entraide. Mais le plus grand atout dont nous disposons et nous les fêtons aujourd'hui, ce sont ces grandes personnalités dont la vision et l'action sont à échelle globale. Elles sont à même de surmonter les clivages les plus profonds et de faire avancer même les causes les plus difficiles grâce à leur attachement profond et sans faille aux droits de l'homme, à la dignité de toute personne humaine. Je ne répéterai pas ici ce qui a été déjà dit par le secrétaire général du Conseil de l'Europe, par le président de la délégation portugaise à l'Assemblée parlementaire, par les présidents du Conseil exécutif des centres Nord-Sud sur les parcours extraordinaires et les qualités exceptionnelles de nos deux lauréats, Mme Simone Veil et M. Kofi Annan. Mais puisque l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe représente en quelque sorte la voix de tous les Européens, je tiens à souligner à quel point votre action est en harmonie avec elle et à quel point votre stature universelle est susceptible d'amplifier cette voix, non seulement en Europe, mais aussi partout dans le monde. Madame Veil, notre organisation est la référence européenne en matière de démocratie et de droits de l'homme que vous avez ardemment défendue pendant toute votre carrière de magistrat et de femme politique. La mémoire de l'histoire et la coopération culturelle auxquelles vous vous êtes consacré aussi de part de votre expérience personnelle de la Shoah sont pour nous des éléments essentiels pour construire un avenir européen commun. Dans la poursuite de nos objectifs, nous, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, nous nous efforçons de coopérer aussi étroitement que possible avec les parlements européens que vous avez présidés pour éviter en Europe les doubles emplois et pour renforcer l'efficacité des institutions européennes en bénéfice de nos citoyens. Aussi, nous avançons la cause des droits de la femme pour lesquels vous avez toujours lutté. Monsieur Annan, l'Assemblée parlementaire a hautement apprécié la réforme des Nations Unies que vous avez engagée. Elle s'est prononcée en faveur d'un renforcement de la dimension parlementaire de l'organisation pour rendre l'ensemble du système de recherche des Nations Unies plus transparent, légitime et responsable devant ses États membres, mais aussi devant l'opinion publique en général. Comme vous, nous défendons à l'Assemblée parlementaire des Conseils de l'Europe l'idée que pour vaincre la pauvreté, la précarité et les maladies, il faut commencer par le respect des droits humains et la dignité de chaque personne, sans distinction de race, d'ethnie ou de religion. La cohésion sociale à laquelle vous avez consacré autant de votre énergie constitue l'une des préoccupations majeures de notre organisation. Le prix que nous vous remettons cet après-midi, c'est une façon modeste de vous dire merci, est une façon forte de vous dire à quel point nous avons besoin de vous, des personnes comme vous, pour avancer vers une société mondiale plus juste, plus fraternelle, plus humaine. Je vous remercie.
Convido agora o Presidente da República a proceder à entrega dos prémios Norte-Sul do Conselho de Europa.
convido a usar a palavra, laureada com o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, a senhora Simone Veil. Pode subir à tribuna.
Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République, Monsieur le Président de la Commission européenne, Monsieur le Secrétaire général du Conseil général de l'Europe, Monsieur le Président du Centre Nord-Sud, Messieurs et Mesdames les parlementaires, bonsoir à tous. Nous allons parler des droits de l'homme, peut-être de façon plus cavalière. J'observe que lorsque j'étais président du Parlement européen, puis par la suite, c'était presque facile de parler des droits de l'homme. Les choses étaient claires. Comme les choses avaient été claires auparavant lorsque j'étais magistrat, que l'on s'occupait par exemple de ce qui se passait en Algérie, dans les prisons, ou dans tel ou autre pays, et où on voyait clairement lorsque les droits de l'homme étaient bafoués. Même si c'était son propre pays dont on estimait parfois qu'il allait trop loin et que peut-être il avait entaché le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, les choses ont totalement changé. Les choses ont totalement changé, tout d'abord géographiquement. Je me souviens, lorsque j'étais président du Parlement européen, ou plutôt peut-être parlementaire, que nous étions allés, un certain nombre de parlementaires de différents groupes, assez différents, mais nous étions tous d'accord là-dessus, nous avions été au Chili et en Argentine. Pourquoi le Chili et l'Argentine? C'est parce que manifestement, dans ces pays, les droits de l'homme étaient bafoués et que nous voulions le dire clairement. Nous voulions aussi, d'ailleurs, que la Commission de Bruxelles, que le Parlement européen en prenne conscience et qu'il y ait en quelque sorte des sanctions pour condamner ces manières de faire. À l'époque, le mur de Berlin existait toujours. Des pays étaient séparés, loin de nous. On pouvait parler des droits de l'homme, on aurait pu en parler, mais à quoi ça servait dans le système qu'il y avait? Bien sûr, c'était important pour les pays, je dirais, satellites auxquels ce régime communiste était imposé. Mais pour les autres, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, bien sûr, on leur envoyait des motions. On essayait de voter des résolutions, mais se demandant toujours à quoi ça servait. Ça servait, ça leur donnait du moral. Il y avait aussi les Américains qui arrivaient à les atteindre, d'ailleurs, par des moyens radiophoniques, par la télévision. Mais tout ça n'allait pas très loin. Pourtant, les choses paraissent claires. Mais aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus complexes. Elles sont beaucoup plus complexes, d'abord parce que des pays qui paraissaient tout à fait vertueux ne le sont plus. Et puis parce que, aussi, le terrain a changé. Les droits de l'homme ne sont plus les mêmes. Certes, il reste les droits de l'homme classiques, et nous y tenons toujours. Mais il y a bien d'autres questions qui se posent, et qui en fait ressortent des droits de l'homme. Je ne veux pas aller trop loin, je ne veux pas dépasser le temps qui m'est imparti, mais simplement souligner que tout ce qui concerne la bioéthique, tout ce qui concerne, je dirais, les relations sexuelles entre les hommes et les femmes, ou entre des femmes et des hommes, simplement, tout cela pose des problèmes et n'est pas simple. C'est d'autant moins simple que tout ce que l'Europe a fait pour rester unie, pour avoir les mêmes règles, et je remercie infiniment le Conseil de l'Europe pour ce qu'il a fait pour l'unité, mais aujourd'hui, devant ces nouveaux cas d'espèce, il lui est bien difficile de savoir où aller, puisque certains ont des droits dans certains pays où on estime parfaitement que certaines choses ne font pas atteinte aux droits de l'homme et que dans d'autres pays, on n'est pas du même avis. Et je parle de pays qui sont pourtant très proches. Je parle notamment, par exemple, en ce qui concerne ces questions que j'ai évoquées, mais aussi en ce qui concerne une question dramatique, mais sur laquelle nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, qui est de savoir s'opposer à ce que quelqu'un choisisse sa mort porte atteinte aux droits de l'homme. Merci.
Peço para se dirigir à tribuna e também usar da palavra, peço ao laureado Kofi Annan. Tem a palavra.
Thank you very much. President of the Republic. Mr. Jaime, President of the Assembly of the Republic of Portugal, distinguished ladies and gentlemen and dear friends. It is a great honor for me to be here today to receive this award together with Simone Weil, a woman whom I have admired for a long time for her moral courage and devoted public service, and a woman whom I had had to call on in the past for advice and to assist me in a delicate mission. This award recognizes the interdependent world we share and live in. It promotes values of solidarity, reconciliation, mutual respect over exclusion and mistrust, respect for human rights and the rule of law. In an era of interdependence, problems cannot be neatly contained within national borders. Some of us are poor. If some of us are poor, we are all the poorer. And if some countries are unstable, we are all less secure. All of us are confronted with new threats which could not have been foreseen in 1945 when the United Nations was being created. The high-level panel on threats, challenges for the 21st century, which I set up, identified some of the new threats which confront us in today's world. War between states, violence within states, including civil wars, large-scale human rights abuses, and genocide. The third one is poverty, infectious disease, and environmental degradation. Fourth, nuclear, radiological, chemical, and biological weapons. Fifth, terrorism, and finally, transnational organized crime. Even a cursory review of these threats should make it patently clear that no one country, however powerful, can deal with these threats alone. In this globalized world, a threat to one is a threat to all. A terrorist attack in an industrial country can have an impact well beyond its borders, with devastating consequences for the well-being of millions of people in developing countries. Any one of 800 million international airline passengers every year can be an unwitting carrier of a deadly disease. And the erosion of state capacity anywhere in the world weakens the protection of every state against transnational threats such as terrorism and organized crime. I hope you heard what I said now that he's pushing the microphone closer to me. Yeah. And if states are to be secure, international cooperation is a must. We need to work together. I therefore applaud your efforts to hold the North and South together. After all, we are in the same boat. And the solutions to these problems will only come if we work together across borders, across boundaries of race, religion, language and culture. The tendency to divide humanity into mutually exclusive groups or categories must be overcome. We must work to build nations within which people of different communities can coexist and enjoy equal rights and opportunity. As important is our resolve to build a world in which no nation and no community will be punished collectively for the crimes of some of its members. A world in which no religion will be demonized for the aberrations of some of its adherents. A world in which there will be no clash of civilization. I see former President Sampaio is here, who is working on alliance of civilization. And let me repeat, a world in which there will be no clash of civilizations, because people will strive to discover the best in each other's traditions, cultures, and learn from them. This is a world I believe in, and it's also a world that I believe most people would want to live in. This year, we celebrate the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. And as I travel around the world, sometimes I'm told, what use is the declaration? It hasn't protected everybody. It hasn't been respected everywhere. That is right. But it has been a powerful tool. It's been inspirational. And it has encouraged people to fight for their rights and to fight for others, using the Universal Declaration as a foundation. They question when governments mistreat their population. They question when respect for this is not enforced. Now, I often ask, particularly with Mrs. Vail here with us, what would have happened if at the time of the World War II, Second World War, we had the Universal Declaration of Human Rights? Would it have encouraged more women and men to stand up and question, to challenge, and let governments know what is going on was not acceptable and was not in conformity of the declaration? Would it have served those threatened then as it is serving some of those who are in difficult situations today? The other important development since the Universal Declaration is the new emerging norm of responsibility to protect, which basically means that governments have a responsibility to protect their citizens from genocide, ethnic cleansing, gross and systematic abuse of human rights. In other words, sovereignty is a heavy responsibility. It's not just a privilege for governments, it has a heavy responsibility. At the World Summit in 2005, all the heads of states agreed that where a government fails to protect its citizens from the crimes that I've referred to, the international community, through the Security Council, has a responsibility to intercede by using all means, political, diplomatic, commercial, economic, and in the extreme case, very extreme case, force. In a way, some people see what happened in Nairobi as the first successful application of the responsibility to protect. But the responsibility to protect, before I say a word about Kenya, we should understand what the implications are. Yes, governments cannot brutalize their people and not expect the world to say anything about it or to intervene. But it also places a great deal of responsibility on us, the outsiders. It means we cannot sit back and do nothing. Some crimes are so shameful that it challenges each and every one of us to ask, what can I do? What should I do? In the case of Kenya, I think the international community did a couple of things right. They heeded the early warnings. The early warnings that things can go drastically wrong and the crisis can run away from us if there wasn't an early intervention. So they intervened early. They also spoke with one voice and acted in concert. And when the international community asks and speaks with one voice, it has a greater impact. Thirdly, there was, I believe, another important factor that there was only one mediation process, which I led with my two other partners, former President Mkapa of Tanzania and Graca Machel of President Mandela's wife. Because normally in these situations you have lots of mediators falling over each other trying to mediate. And when you have more than one mediator, the parties play with the mediators. If they come to me and they don't hear what they want to hear, they'll go to Mrs. Vail. If they don't hear that, they'll go to the other person, and we'll all be running after each other. So it's very important that there is one clear message. But I think the other advantage I had is that I didn't have too many high-level visitors at the critical time, because sometimes that can also not only take time away from the mediator, but each will go and talk to the parties. The parties would interpret it differently, and they would tell the mediators, this is what so-and-so told me, and it gets very confusing. But what is important is that the international community did not sit back. They acted, yes, you would tell me, you would ask me, how about Darfur? Darfur is a difficult and complicated one, and the international community has not stopped it, but it is trying. So let me conclude by thanking you for this great honor you've done me and my fellow honoree, Simone Vail. This is an honor I would treasure. And as we think of human rights and the rule of law, I never forget your contribution, what you in this organization and in Europe have done, and how you yourselves have overcome some of these difficulties and the challenge. I refer to World War II, I could have referred to World War I, but today you've organized yourself in such a way, in this council, in the European Union, that to me, a war in Europe is today unthinkable, and that's a great tribute. Thank you very much.
Vai usar da palavra nesta cerimónia solene o Sr. Presidente da República.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sr. Secretário-Geral do Conselho da Europa, Sr. Secretário-Executivo do Centro Norte-Sul, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Srs. Embaixadores, Sra. Simone Vail e Sr. Kofi Annan, minhas senhoras e meus senhores, é com uma satisfação muito especial que participo nesta cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, associando-me, deste modo, à decisão de homenagear os notáveis contributos de Kofi Annan e Simone Vail em favor da defesa dos direitos do homem. As últimas décadas foram marcadas por uma crescente afirmação do valor da proteção dos direitos humanos, configurada na consciência do valor da vida humana, no repúdio das violações dos mais básicos direitos do homem, na busca de políticas económicas e sociais que respeitem e promovam a dignidade dos indivíduos e bem-estar das comunidades. Para tal contribuíram governos e sociedade civil, mas também organizações internacionais como o Conselho da Europa, cujo papel, ao longo dos últimos 60 anos, quero prestar o meu tributo. No entanto, o caminho percorrido não nos deve fazer esquecer que a promoção de uma sociedade mais justa e mais livre é um desígnio que continua a exigir de todos nós uma ação persistente e empenhada. A desigualdade, a injustiça, a pobreza e a perseguição pelos mais variados motivos, males que ainda hoje graçam em todas as regiões do globo, obrigam a que reforcemos a defesa dos direitos humanos, da liberdade e da democracia e a que nos mobilizemos na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, em que todos os cidadãos possam viver de forma digna e em paz. Minhas senhoras e meus senhores, é de elementar justiça reconhecer o valioso contributo do Centro Europeu para a Interdependência e a Solidariedade Mundiais, o Centro Norte-Sul, para o conhecimento dos atuais problemas da interdependência global e para a promoção de políticas assentes num relacionamento mais estreito e solidário entre o Norte e o Sul. Transcorridos 20 anos desde o apelo de Madrid, que levou à criação, em 1989, do Centro Norte-Sul, estas são preocupações que se mantêm plenamente relevantes, como se encarrega de nos lembrar a cada dia a realidade internacional. De facto, a crescente interdependência global coloca-nos perante desafios que exigem, também eles, respostas concertadas a um nível cada vez mais abrangente. Sabemos bem, no entanto, que respostas concertadas dificilmente serão possíveis se não lhes estiver subjacente o respeito pelo outro e a solidariedade perante aqueles menos preparados para tirar partido das oportunidades que a globalização proporciona. É pela afirmação e partilha destes valores que se forja um padrão de desenvolvimento mais equilibrado e sustentável a nível mundial. É nele que assenta, em larga medida, a edificação de sociedades mais justas e mais solidárias. Trata-se de um desígnio que a todos congrega e para o qual todos somos chamados a contribuir. Os dois laureados do Prémio Norte-Sul deste ano cedo compreenderam e aceitaram as suas responsabilidades. A sua ação constitui um exemplo para todos nós e reforça a nossa esperança num mundo melhor e mais justo, assente na permanente valorização do homem. A vida da senhora Simone Veil é um notável exemplo do empenho na promoção dos direitos humanos, em particular dos direitos da mulher, das crianças, dos idosos e dos imigrantes. Na adversidade, da adversidade e do sofrimento, Simone Veil soube retirar a força e a convicção necessárias a quem dedica uma vida inteira à causa pública na defesa de uma sociedade mais justa e mais atenta aos seus elementos mais frágeis. Esta contínua e perseverante militância pela dignidade humana, presente em todas as suas ações, constitui fonte de inspiração e merece todo o nosso reconhecimento. Prémio Nobel da Paz. E com uma vida dedicada às grandes causas das Nações Unidas, de que foi um notável secretário-geral, Kofi Annan é bem o símbolo da determinação na busca da paz e do bem-estar da humanidade. Permitam-me que releve o seu papel na luta contra a SIDA. O seu inesgotável empenho na definição e persecução dos objetivos do milénio. A sua capacidade de intervenção e conciliação, fundamental para a resolução de variados conflitos internacionais, como aquele que atingiu recentemente o Quénia. Nos encontros que mantivemos, eu próprio tive o privilégio de beneficiar do seu parecer, sempre conhecedor, lúcido e inteligente, sobre as questões que integram a agenda internacional dos nossos dias. Concluo agradecendo ao Centro Norte-Sul a oportunidade que nos dá, com a concessão deste prémio, de distinguir estas duas grandes figuras do nosso tempo e, através delas, de sublinhar a grandeza dos ideais pelos quais orientaram as suas vidas e o valor do seu exemplo. Muito obrigado.
Concluída esta cerimónia de entrega dos Prémios Norte-Sul do Conselho da Europa de 2008, convido a todos para um porto de honra na sala dos espaços perdidos da Assembleia. Muito obrigado.